Vous écoutez RFI, il est 3h à Paris, 2h en temps universel.
Christophe Drevet.
À la une de l'actualité, l'Organisation mondiale de la santé fait de grands pas vers son objectif d'éradiquer la tuberculose à l'horizon 2030. Une avancée notable en Afrique, puisque la région a connu la plus forte baisse de décès depuis 2015. La Turquie toujours sous tension après l'arrestation et l'incarcération du maire d'Istanbul. Ekrem İmamoğlu, figure de l'opposition, est poursuivi pour corruption et démis de ses fonctions. Mais ses partisans restent fortement mobilisés dans la rue. Et puis l'indignation en France après l'agression d'un rabbin dans la ville d'Orléans. Le religieux a été frappé à plusieurs reprises dans la rue devant son fils. Son jeune agresseur a lui été placé en garde à vue. La classe politique condamne. L'OMS avance un peu plus vers son objectif d'éradiquer la tuberculose en 2030. En cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose, on célèbre une avancée pour l'Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la région africaine a enregistré la plus forte baisse mondiale des décès dus à la tuberculose depuis 2015. Ce sont près de 2,5 millions de cas diagnostiqués en 10 ans. De quoi réjouir Jean-Louis Abena, conseiller tuberculose auprès de la région Afrique de l'OMS.
C'est là. Du nombre de cas que nous avons pu identifier et que nous pouvons guérir. Nous avons un taux de guérison de 88%. C'est une grande avancée due aussi à la mise en place d'outils de diagnostic qui sont plus sensibles, des outils moléculaires. Donc c'est un appel à plus de solidarité pour pouvoir lever les finances internes, pour pouvoir acheter ces intrants qui sont décisifs pour la lutte contre la tuberculose. Nous avons une réduction de près de 50% de la tuberculose en Afrique du Sud. Nous avons aussi le cas des Eswatini qui ont fait des progrès remarquables. Mais il y a des pays qui sont un peu inquiétants. Il y a le Gabon qui a un taux d'infection parmi les plus élevés d'Afrique. Et la mortalité ne baisse pas. Il y a la République du Congo qui nécessite qu'on s'y penche un peu plus parce que toute l'Afrique devrait en 2030 être libre du fardeau de tuberculose comme étant un problème de santé publique. L'objectif est ambitieux, mais on ne peut pas baisser l'objectif et il faut mettre tous les efforts en place.
Jean-Louis Abena, conseiller tuberculose auprès de la région Afrique de l'OMS, au micro de Weli Diallo. RFI, il est 5h02 à Istanbul. La tension reste très vive en Turquie, où le maire d'Istanbul a été envoyé ce dimanche en prison pour corruption. Ekrem İmamoğlu a aussi été suspendu de ses fonctions. L'opposant, devenu la bête noire du président Erdogan, a été arrêté mercredi, ce qui a déclenché une vague de manifestations dans le pays tous les soirs. Cette mobilisation sera est-elle néanmoins suffisante pour déstabiliser le président Erdogan? Ce dernier peut compter sur le climat international. L'élection de Donald Trump conforte plutôt le président turc. C'est en tout cas l'analyse de Max Valentin Robert. Ce spécialiste de la Turquie était l'invité de la mi-journée au micro de Charles Tidrac.
Désormais, les États-Unis sont moins enclins à se préoccuper de l'état de la démocratie dans le monde. On peut notamment mettre en parallèle l'indifférence des États-Unis par rapport à ce qui se passe en Turquie avec leur indifférence par rapport à ce qui se manifeste actuellement au niveau du conflit russo-ukrainien. Mm-hmm. Et on peut même aller plus loin. Par exemple, Elon Musk a censuré plusieurs comptes X proches de l'opposition turque et couvrant les manifestations en Turquie. Ce qui fait qu'on peut même aller jusqu'à dire que non seulement le retour de Trump aux responsabilités a favorisé une fenêtre d'opportunité pour les velléités autoritaires d'Erdogan, mais côté américain, il y a également un quasi-soutien à ce raidissement autoritaire en Turquie.
Et ajoutons que les autorités turques ont demandé au réseau social X de la fermeture de plus de 700 comptes d'opposants. C'est ce qu'a annoncé la plateforme ce dimanche soir. Aujourd'hui, un vote avait lieu en Turquie. Le grand parti d'opposition, le CHP, devait désigner son candidat pour la présidentielle de 2028. Le vote de soutien à Ekrem İmamoğlu a été massif. 15 millions d'électeurs y ont participé selon la municipalité. Au Proche-Orient, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur la bande de Gaza. Elles ont déjà fait plus de 500 morts en 5 jours et plus de 50 000 depuis le début de la guerre, selon le Hamas. Le Hamas qui a perdu l'un de ses responsables dans une frappe qui a visé l'hôpital Nasser à Khan Younes ce dimanche. Dans ce contexte, le ministère israélien de la Défense a annoncé ce dimanche aussi la création d'une administration spéciale chargée de permettre aux Palestiniens de quitter volontairement le territoire de l'enclave. Une décision dénoncée lancée par une ONG israélienne anti-colonisation. Selon le ministère, le cabinet de sécurité a approuvé son projet d'administration dédié au départ volontaire des habitants de Gaza vers un pays tiers. Cette dernière fonctionnerait sous l'autorité du ministère de la Défense, mais pourrait coopérer avec des organisations internationales. Les échanges en vue d'une trêve partielle en Ukraine ont débuté en Arabie Saoudite. Une réunion entre Ukrainiens et Américains s'est tenue ce dimanche à Riyad. Les discussions ont été productives, selon le ministre ukrainien de la Défense. Une rencontre à la veille de discussions que le Kremlin prévoit difficiles entre les délégations russes et américaines. Le président ukrainien a appelé à pousser son homologue russe Vladimir Poutine à mettre fin aux frappes sur l'Ukraine. Aux États-Unis, Donald Trump apporte son soutien au candidat républicain dans l'élection à venir pour un poste de juge à la Cour suprême du Wisconsin, une élection considérée comme le premier test électoral de son second mandat présidentiel. Une victoire du candidat républicain le 1er avril ferait basculer du côté conservateur la haute instance de cet État de la région des Grands Lacs dans le nord du pays. L'indignation en France où le rabbin d'Orléans dans le centre du pays a été agressé en pleine rue samedi en compagnie de son fils de 9 ans. Il rentrait d'une cérémonie de Shabbat à la synagogue lorsqu'il a été mordu et frappé à la tête par un adolescent de 16 ans qui a été placé depuis en garde à vue. Un acte antisémite de plus alors que le ministère de l'Intérieur en a recensé 1570 l'an dernier. Il représente 62% des actes antireligieux. Toute la classe politique française a condamné unanimement cette agression du rabbin d'Orléans, Stéphane Duguay.
À commencer par le président de la République, Emmanuel Macron adresse tout son soutien au rabbin agressé, à son fils et à toute la communauté juive. Il dénonce le poison de l'antisémitisme, des mots partagés par le chef du Parti Socialiste Olivier Faure. À gauche, encore Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, est un des premiers à réagir. Il parle d'une agression violente, insupportable, qui s'est produite alors que se tenait plusieurs manifestations contre le racisme partout en France. Le chef des Insoumis était déjà sous le feu des critiques à cause d'une affiche qualifiée d'antisémite, publiée puis supprimée par son parti. Manuel Bompard a passé sa journée à répondre sur les réseaux sociaux à plusieurs accusations formulées par des responsables de droite et d'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, estime que les mouvements d'extrême gauche attisent la haine, écrit-il sur X. Marine Le Pen, elle, se fait plus précise. Elle met en cause directement LFI, accusée d'avoir mis une cible dans le dos, je cite, des personnes juives, avec des propos insupportables et des visuels nauséabonds. Pour le coordinateur de LFI, ces critiques sont une opération politicienne et une instrumentalisation de l'agression du rabbin d'Orléans.
Et dans ce contexte de montée des actes racistes et antisémites en Europe, une manifestation contre le racisme avait lieu ce dimanche après-midi à Bruxelles. Des milliers de personnes y ont participé, dénonçant la montée du discours d'extrême droite dans le monde entier, mais aussi la politique migratoire du nouveau gouvernement belge. Sur place, à Bruxelles, Lakshmi Lotha.
Make racism wrong again. Rendez le racisme à nouveau inacceptable, peut-on lire sur les pancartes des manifestants. Jenny est venue en famille avec ses enfants.
On est assez inquiets, même au niveau de la Commission européenne. On voit que les discours de haine à l'égard des migrants sont en train de s'accentuer.
Le gouvernement du nationaliste flamand Bart De Wever vient de lancer une campagne sur les réseaux sociaux à l'intention des migrants. Ne venez pas en Belgique, politique migratoire la plus stricte jamais vue, annonce le message diffusé sur WhatsApp et YouTube, un discours dénoncé par les militants.
Tout le monde a le droit d'avoir une place dans le monde, dans chaque pays.
On a un nouveau gouvernement qui va être beaucoup plus draconien avec l'immigration notamment. Et donc, il est temps qu'on se réveille un peu partout en Europe et dans le monde.
J'ai hébergé des migrants, je les ai conduits chez les gens pour qu'ils ne dorment pas à la rue, surtout quand il faisait froid, quand il pleuvait en hiver. Simplement les droits des êtres humains. Et tout le reste, c'est de la politique.
Une journée de grève nationale est prévue à la fin du mois pour dénoncer plus largement la politique du nouveau gouvernement. Lakshmi Lotha, Bruxelles, RFI.
Du football ce dimanche avec les quarts de finale retour de la Ligue des Nations. La France s'est finalement qualifiée pour les demi-finales en éliminant la Croatie au tir au but. Qualification également de l'Espagne, là aussi au tir au but, face aux Pays-Bas. L'Espagne qui sera l'adversaire de la France en demi-finale. De son côté, l'Allemagne a réussi à se hisser dans le dernier carré en battant l'Italie sur le score cumulé de 5 buts à 4 sur l'ensemble des deux matchs. Enfin, le Portugal a largement dominé le Danemark, 5 buts à 2 et est qualifié policier lui aussi. Merci d'écouter RFI, il est 3h10 à Paris.